Première lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 1er. Pendant que vous cherchez le texte, eh bien j'en profite pour saluer ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure et tout spécialement ceux qui nous visitent peut-être en cette journée. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Voilà, l'évangile de Luc, le chapitre 18, le verset 1er. Il est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Amen. » Voilà. Alors, il ne faudrait pas avoir une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de cette parabole qu'a donnée le Seigneur Jésus. Bien évidemment, il ne compare pas du tout notre Père céleste au juge dont il est question là. Cet homme avait un cœur dur, n'est-ce pas, un cœur méchant, un cœur fermé, et c'est parce que cette pauvre veuve a fini par lui casser la tête que lui a fini par répondre à sa demande. Nous, nous avons affaire à un Dieu qui est notre Père et qui, à ce titre, nous aime tendrement et qui, pour cela, répond à nos prières. Mais l'enseignement que Jésus nous adresse ici, eh bien, il se trouve exprimé dès le premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. D'autres traductions disent il faut toujours prier et ne point se décourager. C'est pas, il faut toujours prier et ne point se lasser. Quelqu'un a dit, vous avez certainement entendu cette expression, que la prière, c'est la respiration de l'âme. Vous avez remarqué que la respiration, c'est naturel et c'est vital. Hein? Et si nous nous abstenions de respirer, eh bien, très rapidement, nous connaîtrions l'asphyxie et puis la mort. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est un petit peu comme ça. Il en va de même pour la prière. C'est naturel et c'est vital. Un chrétien, je dirais normalement constitué, ne peut pas s'empêcher de prier. Et d'autre part, pour un chrétien normalement constitué, la prière est un exercice spirituel vital pour que, eh bien, son être tout entier puisse se développer harmonieusement dans les choses du Seigneur. Il y a d'abord la prière personnelle. Jésus y fait allusion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 6. C'est un verset bien connu, souvent cité. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous avez remarqué que Jésus ne dit pas « si tu pries, entre dans ta chambre ». Mais il dit « quand tu pries », ce qui suppose que pour lui, eh bien, il est évident qu'un de ses disciples doit s'adonner personnellement et régulièrement à la prière. Le Seigneur s'attend à ce que nous le prions. Jésus lui-même nous a donné l'exemple de cette vie de prière personnelle. Vous voyez, certains textes nous disent que après avoir eu une journée extrêmement intense dans le service de Dieu. Après une courte nuit de sommeil, le texte nous dit dans l'évangile de Marc, Jésus, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, se leva et il alla dans un lieu désert où il pria. Où il pria. Jésus avait cette habitude de prier, d'entretenir la communion personnelle avec son Dieu, avec son Père, le matin, parfois le soir, sur la montagne, il se retirait après avoir dispersé ses disciples pour prier. Et il était là, nous dit l'Écriture, il était là seul. Et nous avons besoin, vous avez besoin, nous avons besoin, j'ai besoin de ce temps quotidien avec Dieu. C'est vrai que la vie moderne est ainsi faite que les emplois du temps sont surchargés, le travail, les activités de toutes sortes, les enfants qu'il faut conduire à l'école, et puis, je ne sais pas, moi, peut-être au conservatoire, et puis peut-être ensuite on va faire du sport, etc., 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 etc. Ce qui fait qu'il semble que les journées de 24 heures ne suffisent pas, n'est-ce pas? Mais il faut impérativement, il faut absolument que chaque chrétien prenne un temps avec Dieu, c'est prioritaire. Ça doit passer avant tout le reste, ce temps quotidien avec Dieu. Il y a la prière personnelle, il y a la prière collective, en commun, avec nos frères et sœurs. Vous savez, ça a commencé comme ça, la vie de l'Église. Quand on ouvre le livre des Actes des Apôtres, tout de suite, il est dit que ces premiers chrétiens, on n'était pas très nombreux au début, quelque chose comme 120, n'est-ce pas, hommes et femmes. Mais il est dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ça a commencé comme ça, et puis ça a continué comme ça. Parce que même après qu'il y eut ce que nous appelons le réveil, Actes chapitre 2, la Pentecôte, 3000 qui se convertissent, il est dit que ces gens-là, après avoir pris leur baptême, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, etc., dans les prières. Ça doit se poursuivre ainsi, d'autant plus qu'il y a une promesse précise dans l'évangile de Matthieu. Nous connaissons ces textes où Jésus dit que si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en son nom, elle leur sera accordée par le Père qui est dans le ciel. Et Jésus précise, parce que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne désertez pas, frères et sœurs, les réunions de prière. C'est important d'y participer, c'est important d'être là, c'est important de mener ce combat dans la prière pour le peuple de Dieu. La prière peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être simplement un cri. L'Écriture nous rend témoignage de ce roi qui s'appelait Josaphat, et un jour, au cours d'un combat, il a été cerné de toutes parts par les ennemis qui voulaient lui faire la peau, c'est le cas de le dire. Et la parole de Dieu nous dit que Josaphat cria, vous voyez, il n'a même pas eu le temps de prier. Il a crié vers Dieu. Et au cri qu'il a poussé, Dieu a dispersé ses ennemis. Et parfois, il peut nous arriver que dans une situation périlleuse, nous n'ayons d'autre recours que de crier à Dieu, que peut-être dire « Seigneur !» Et nous verrons la main du Seigneur s'étendre en notre faveur et nous secourir. Il peut y avoir une prière intérieure. Par exemple, lorsque Néhémie s'est retrouvé devant l'empereur, n'est-ce pas, et que Néhémie avait le projet d'aller à Jérusalem pour reconstruire, rebâtir la muraille, le souverain lui a dit « Mais qu'est-ce que tu demandes ?» Alors là, dans son cœur, comme pris de court, Néhémie a prié. Néhémie a prié intérieurement avant de formuler sa requête au roi, et Dieu a disposé, et Dieu est intervenu. Ça peut être aussi une prière silencieuse. Vous vous souvenez certainement de la prière d'Anne, la mère de Samuel, le futur prophète. Et l'Écriture dit, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, qu'elle parlait dans son cœur. On n'entendait pas sa voix, n'est-ce pas? Mais elle parlait dans son cœur et elle répandait son âme devant Dieu. La prière, ça peut être un soupir. Jésus lui-même a soupiré. Un jour, il fut en présence d'un sourd muet, et l'Écriture dit que Jésus a soupiré en lui-même, prononçant cette simple parole « Ouvre-toi !» Et le miracle s'est produit, le muet a parlé, le sourd entendu. Il s'agit de prier avec l'intelligence. C'est la première épître de Paul aux Corinthiens qui fait mention de cette nécessité de prier avec l'intelligence. C'est quoi ça, prier avec l'intelligence? Eh bien, ça consiste tout simplement à prier dans notre langue maternelle et à exprimer, à exposer au Seigneur les besoins, les sujets qui nous tiennent à cœur. Avez-vous remarqué que dans la Bible, il y a de belles prières? Ce serait certainement une étude biblique profitable à chacun d'entre nous, qu'elle nous pourrions nous livrer, que d'étudier les prières de la Bible. Vous avez la prière d'Abraham, qui a prié pour Sodome. Alors on pourrait dire ça n'a pas marché, parce que Sodome a été détruite. Si, parce que dans Sodome, il y avait un homme qui s'appelait Lot, qui n'était autre que le neveu d'Abraham. Et il est dit que Dieu fit échapper Lot du désastre, et il le fit parce qu'il se souvint d'Abraham et donc de sa prière. Vous avez également la prière de Salomon, vous vous rappelez? Les prières de Salomon. Tout d'abord au début de son règne, quand Dieu lui est apparu en disant « Demande ce que tu voudras et je te le donnerai ». Quelle proposition extraordinaire! On pourrait s'interroger et dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que j'aurais demandé moi à la place de Salomon ? Peut-être la guérison de mes problèmes de santé ? Peut-être ton intervention dans les problèmes familiaux, peut-être je ne sais quoi. Mais lui, il a demandé la sagesse et sa prière fut exaucée. Et puis, bien plus tard, alors que le temple avait été construit, hein, et lors de la dédicace du temple, Salomon, et vous lirez cela dans la parole de Dieu, a formulé une prière remarquable. Il envisage toutes les possibilités, il demande à Dieu d'intervenir et essentiellement de pardonner son peuple lorsqu'il s'égarera loin de lui. Et il y a la prière de Néhémie, justement à propos de Jérusalem, lorsque cette nouvelle lui est parvenue, que Jérusalem était en ruine, que le peuple était au comble de la confusion, de la misère, de la détresse. Alors Néhémie a fait monter vers Dieu une prière intense et Dieu est intervenu. La prière de Daniel, lorsqu'il a lu dans les prophéties de Jérémie que 70 ans devaient s'écouler pour les ruines de Jérusalem, il a intercédé pour son peuple et Dieu est intervenu. Vous avez les prières de Paul dans ses épîtres, notamment dans l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, les prières en faveur de l'Église. Et c'est remarquable ça, il ne se contente pas de dire « Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les », mais ces prières sont ciblées dans les domaines spirituels, les besoins spirituels et moraux intenses de l'Église de Christ. Et puis, à tout Seigneur, tout honneur, il y a la prière de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Alors, il y a plusieurs sujets que Jésus aborde, mais notamment, il prie pour l'unité de l'Église. Ah, cette prière dans laquelle il dit, Seigneur, qu'il soit un, Père, comme nous sommes un. Et plaise à Dieu que cette prière soit exaucée au milieu de nous. Alléluia. Et que nous soyons unis en Jésus-Christ. Il y a la prière par l'Esprit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 26 et 27, je lis pour vous le texte, où il dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est vrai, nous ne savons pas toujours ce qu'il nous convient de demander, mais le Saint-Esprit le dit. Nous n'avons pas toujours conscience pleinement de ce que sont nos véritables besoins, mais le Saint-Esprit le sait parfaitement. Alors, par des soupirs inexprimables, alors par le moyen du parler en langue, l'Esprit intercède en nous, pour nous et par nous. Et la prière de l'Esprit, frères et sœurs, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est toujours exaucée. Parce que, comme nous l'avons lu là, elle est selon la volonté de Dieu. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. S'il vous arrive, et ça nous arrive à tous, d'être confrontés devant une situation à propos de laquelle nous ne savons Comment orienter notre demande? Comment orienter notre prière? Nous ne savons pas ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient même de demander à notre Dieu. Eh bien, dans ces moments-là, priez en parlant en langue. Et l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, vous inspirera sans que vous en ayez conscience pour formuler la prière précise que vous devez faire monter vers Dieu. Vous ne comprendrez pas, mais l'Esprit comprendra, alléluia. Et le Père comprendra, et il agira, et il répondra en conséquence. La prière aussi peut être accompagnée de jeûne, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Matthieu, eh bien, Jésus donne des indications à ce sujet. Il dit, ne sois pas comme les hypocrites, qui lorsqu'ils jeûnent, se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Non, 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 fais ça discrètement, tu n'as pas besoin d'en faire étalage. Ça, c'est le jeûne personnel. Il peut y avoir le jeûne collectif. Dans le livre du prophète Joël, le prophète parle d'une sainte convocation où tout le peuple est rassemblé. Oh Seigneur, si ça pouvait se produire au milieu de nous, ça. Hein? Si nous étions, quand il y a un temps de jeûne et de prière, plus qu'une petite dizaine, mais si nous étions, tiens, aussi nombreux que ce que nous sommes ce matin, en train de prier, d'intercéder, de passer du temps dans le jeûne et dans la prière. C'est une marque d'humilité et même d'humiliation. C'est un signe, le jeûne, que nous considérons que les besoins spirituels sont supérieurs à tous les autres. Ça ne confère pas le moindre mérite. Ça n'est pas parce que j'ai des crampes d'estomac que j'achète la bénédiction de Dieu. Non, non, c'est simplement un acte de consécration. Alors, attention, il faut user de sagesse, de mesure à cet égard, n'est-ce pas? Il faut être équilibré. Moi, je connais un homme qui, à force de jeûner, mes amis, il en est mort. Vous voyez, ça, c'est des équilibres. C'est quelqu'un qui était perturbé psychologiquement, mentalement et spirituellement. Non, non, Dieu, n'est-ce pas, est un Dieu de sagesse et d'équilibre. Hein? Et il faut tenir compte de cette réalité et ne pas s'embarquer dans des choses que Dieu désapprouverait. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, au verset 18, il est écrit ceci, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec persévérance. » Il y a ainsi, nous dit la Bible, plusieurs types, plusieurs sortes de prières. Il y a d'abord la prière de confession. Nous nous sommes repentis le jour de notre conversion. Enfin, c'est à souhaiter, sinon s'il n'y avait pas eu de repentance, il n'y aurait pas eu de conversion non plus. Mais force nous est de constater que même après notre conversion, il y a bien des moments où nous sommes passés à côté de la volonté de Dieu, où nous avons désobéi, où nous avons péché. Et lorsque cela se produit, eh bien le seul recours qui nous reste, c'est de fléchir les genoux devant Dieu et de nous adresser à lui en lui confessant nos péchés. C'est dans une épître qui est adressé à des chrétiens, que l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, si ma mémoire est exacte, dira ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et plaise à Dieu que le Saint-Esprit ait encore accès suffisamment à notre cœur pour encore, même après des années de conversion, lorsque c'est nécessaire, pouvoir nous convaincre de péché. Et lorsque cela est, eh bien, il faut faire monter vers Dieu cette prière de confession, comme, rappelez-vous, David le fit dans le psaume 51. On connaît son péché, l'adultère, le meurtre, c'est affreux, c'est abominable. Le prophète Nathan est venu dénoncer sa faute. Après que pendant bien longtemps, David ait endurci son cœur et finalement il a craqué, j'ai péché contre l'Éternel. Et il ne s'est pas contenté d'une confession à la vite. Non, non, non. Il a pris le temps de régler l'affaire devant Dieu et de demander au Seigneur dans une prière fervente, psaume 51, vous le lirez, de le purifier, de le laver, de le nettoyer, de lui donner un cœur nouveau, de renouveler en lui un esprit bien disposé. Et Dieu a fait grâce. C'est important de comprendre cela. Parce que vous savez, le péché pratiqué, le péché entretenu, le péché qui n'aurait pas été abandonné dans la vie d'un enfant de Dieu, ou tout au moins de celui qui se prétend enfant de Dieu, ce péché-là, ce péché non confessé, ferme le ciel d'une manière certaine. On peut toujours prier. On peut prier pendant des heures, des jours. Hein? On peut invoquer Dieu, on peut se rouler par terre, on peut monter le ton. Mais si nous entretenons d'une manière délibérée, consciente, dans notre vie, le péché, sans vouloir y renoncer, sans vouloir l'abandonner, le Seigneur ne nous exaucera pas. C'est aussi simple que cela. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les paroles doivent être prises au sérieux, vous voyez. Et je pense que, notamment lorsque nous prenons la Sainte-Cène tous les dimanches matins, c'est une occasion de sonder notre cœur. La parole de Dieu même nous dira que si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, Dieu nous jugera. Et il nous corrigera, non pas pour nous détruire, mais pour nous permettre de prendre conscience de ce qui ne va pas, afin que nous puissions rectifier le tir et que si besoin est, effectivement, nous nous repentions devant lui. Je crois que la marque d'un réveil, c'est ça, vous voyez. Et peut-être même que le réveil commence par ça. Nous souhaitons, nous désirons, et Dieu sait que je le désire au plus haut point, que des âmes nouvelles viennent à la connaissance du salut, que des pécheurs soient sauvés, que des malades soient guéris, gloire à Dieu. Mais peut-être qu'il faut considérer cette vérité que le réveil commence d'abord dans l'Église. Les gens de l'extérieur, ils n'ont pas besoin d'être réveillés, ils ont besoin d'être éveillés. Ceux qui ont besoin d'être réveillés, c'est ceux qui ont été préalablement éveillés et puis qui ensuite se sont assoupis. Et certainement que l'Église d'aujourd'hui, du 21e siècle, a besoin quelque part de passer par la repentance, de faire en sorte que tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas net dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos propos, dans nos paroles, dans nos actes, mais aussi dans nos pensées, dans nos sentiments, que ces choses-là soient mises à nu devant Dieu, soient confessées, soient avouées, et puis soient abandonnées aux pieds du Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi ta grâce pour que je triomphe de moi-même. Et le Seigneur veut le faire. La prière de confession, la prière d'action de grâce, c'est l'expression de la reconnaissance de ce qu'il a fait, des bienfaits reçus. Alléluia. C'est le contraire de l'ingratitude. Voyez ? Dire merci au Seigneur, c'est aussi simple que ça. Rappelez-vous les 10 lépreux. 10 avaient été guéris, un seul est revenu sur ses pas pour rendre grâce au maître qu'il avait guéri. Jésus s'est étonné d'une telle ingratitude. Les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il retrouvé que cet étranger, en plus c'était un étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Soyons de ceux qui savent apprécier les bienfaits du Seigneur et qui savent lui rendre grâce. Alléluia! Lui dire merci. Lui dire merci pour tout ce qu'il nous accorde. La prière d'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est la proclamation de ce que Dieu est. C'est le louer, le célébrer, le glorifier pour ce qu'il est. Il est Dieu. Pour sa sainteté, pour sa puissance, pour sa justice, pour sa sagesse, pour sa souveraineté, pour son amour, pour ses œuvres grandioses, la création, la rédemption, c'est-à-dire le salut, le jugement qu'il manifestera et aussi pour le royaume à venir. Il faut proclamer dans l'adoration ce que Dieu est, n'est-ce pas? Rappelez-vous la vision du prophète Ésaïe, au chapitre 6 de son livre. « Ah, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et autour du trône divin, il y avait ces créatures angéliques, les séraphins qui se répondaient l'une à l'autre, « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous voyez, les êtres célestes, les anges adorent. Et si les êtres célestes adorent, les créatures que nous sommes doivent l'adorer également. Et Dieu fasse que le Saint-Esprit nous renouvelle dans la, la pertinence de notre adoration. N'est-ce pas? Ce que le Père demande, dira Jésus, ce sont des adorateurs. Ce sont des adorateurs. N'oubliez pas cela. Dans votre dévotion personnelle, dans votre temps de communion personnelle avec Dieu, ne vous contentez pas d'énumérer les besoins qui sont les vôtres ou les besoins qui sont ceux d'êtres qui vous sont chers. Oui, faites-le. Mais dans votre temps de prière personnelle, adorez Dieu. Prenez un temps pour l'adorer. Entrez dans la présence de Dieu avec l'adoration, avec la louange, en lui exprimant eh bien, votre amour pour lui en réponse à l'amour qu'il a pour vous. Il y a la prière de demande, de supplication ou de requête. Nous exposons là nos besoins à Dieu, lui demandant d'y pourvoir, d'intervenir. Et lorsque nous sommes dans une situation difficile, Jésus nous a invités à savoir le faire. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, dira-t-il. Car si méchant comme vous l'êtes, c'est vrai que la nature humaine est méchante. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. L'apôtre Jacques, quant à lui, nous dira que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était de la même nature que nous. Il pria, et pendant 3 ans et demi, le ciel a été fermé, pas une goutte de pluie. Il pria de nouveau, et la pluie est tombée. C'est bon de savoir qu'Élie était de la même nature que nous, voyez. Ce n'était pas un surhomme, c'est un homme. D'ailleurs, quand on lit son histoire, on voit qu'il est passé par un temps de déprime spirituelle intense. Il voulait mourir. Et l'humour de Dieu, c'est qu'il n'est jamais mort. Vous avez remarqué ça, puisque Dieu l'a envoyé, l'a enlevé dans la gloire. J'ai remarqué ceci, c'est que cette prière qui consiste à demander la mort, Dieu ne l'exauce pas. Moïse a demandé la mort, il n'est pas mort. Enfin, pas à ce moment-là tout de moins. Élie de même, et puis il y en a 2 ou 3 comme ça, Dieu ne les a pas exaucés. Hein? Si vous êtes à un point où vous êtes tellement découragé, dites « Seigneur, prends-moi !» Dieu ne va pas vous exaucer. Non. Il ne fera pas ça. Hein? Il vous laissera en vie pour que vous puissiez expérimenter sa grâce, son secours et son soutien comme il le fit pour Élie. Ah, la prière, quelle grâce! L'épître aux Philippiens aussi nous dit ceci dans le chapitre 4. Et le verset 6, laissez-moi vous lire ça pour vous. C'est pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parfois, des gens qui disent, mais Seigneur, est-ce que vraiment je peux prier pour ce détail de ma vie, est-ce que tu vas te soucier de cette petite affaire-là, hein? Mais oui, tout ce qui est pour nous une cause d'inquiétude, de souci, de chagrin, ça l'intéresse. Il y a des choses qui sont étonnantes, vous savez. Je me souviens de cette chrétienne dans la région toulousaine. Elle était convertie depuis fort longtemps. Elle n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit. Et elle aspirait à être baptisée dans le Saint-Esprit. Et puis, un jour, son chien est mort. Et elle était inconsolable. Hein? Peut-être vous pensez que ça, c'est un détail. Mais elle était malheureuse comme tout. Alors, elle s'est mise devant le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, il faut que tu me consoles. Demandez à Dieu de la consoler parce que le clébard est mort. Hein? Non, mais... Vous savez que Dieu est bon? Il est même meilleur que ce que nous pouvons penser. Elle a été baptisée du Saint-Esprit ce jour-là. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Hein? J'espère que je ne vous choque pas. C'est authentique ce que je vous raconte. Dieu est un Dieu qui se plaît à se pencher sur nos besoins les plus sérieux et ceux que nous pourrions juger comme mineurs ou anodins, voyez. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, allez-y, répandez votre cœur devant Dieu. Ah oui, c'est vrai, il connaît toutes choses. C'est vrai, mais il est important que devant lui, c'est l'expression de votre attente à l'égard de sa personne. Vous exprimiez ce qui vous tient à cœur. Dieu veut l'entendre. Il prête une oreille attentive à la prière de ses enfants. Et dans la prière, on peut tout lui raconter. Hein? Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir ces temps de prière personnelle. Même ceux qui sont mariés, tenez, prenez un temps pour prier ensemble. N'oubliez pas ça. Je n'avais pas marqué ça sur mes notes. Hein? Moi, je suis désolé d'une chose. Souvent, dans un couple chrétien, je pose cette question. Hein? Vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, ça ne fait rien. Est-ce que vous priez ensemble? Et bien souvent, on me dit non. Madame prie dans la cuisine et monsieur dans la salle à manger ou inversement, mais pas ensemble. Mais c'est regrettable, ça. C'est regrettable. Bien sûr, il faut que chacun ait sa vie, même marié, même chrétien, tous les deux, sa vie de prière personnelle, c'est important. Mais prenez un temps pour prier ensemble. Priez pour vos gamins pour qu'ils se convertissent. Alléluia. Et priez non seulement pour eux, mais priez avec eux. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est puissant, jour après jour, dans un foyer chrétien, papa, maman, les enfants, et on prie, bien sûr, pour faire ça, il faut éteindre la télé, l'ordinateur, les portables et les insupportables, hein, pour consacrer. Alors, si c'est des enfants, il ne faut pas que vous leur appliquiez un tarif forcené, hein. Si vous priez avec eux pendant trois quarts d'heure, à la fin, ils diront pas amen, ils diront ouf. Hein? Non, mais quelques minutes suffit. Un texte de la Bible. On prie pour l'école, on prie pour eux, ceci, cela, le reste. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et vous savez, c'est comme un marteau. Hein? À fur et à mesure qu'on tape, le clou s'enfonce. Il ne s'agit pas de taper sur la tête des gamins pour que les vérités de l'Évangile le rentre dans le crâne. Mais c'est vrai qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir dans la prière. Dans la prière. Moi, mon plus cher désir, c'était que mes enfants se convertissent. Non ? C'est pas comme ça pour vous ? Vous voyez ? Si j'avais eu 10 000 conversions, plaise à Dieu que je connaisse ça, mais que mes gosses soient perdus, je considérerais que ce serait un échec magistral. Mes enfants, d'abord. Mais il faut se donner les moyens. C'est Dieu qui sauve, certes. Mais ma responsabilité, c'est de mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent venir à Christ, qu'ils se convertissent. On se soucie, c'est bien normal, de leur scolarité, de leur santé, de leur avenir professionnel, etc. C'est normal, ils le font. Il ne faut pas se désintéresser de tout ça. Mais je vous en supplie, frères et sœurs, intéressez-vous à l'avenir spirituel de vos enfants. Et pour ça, priez avec eux et priez pour eux. Alléluia. Et même quand ils ont quitté le nid familial, il y a bien longtemps de cela, à Carcassonne, un couple de chrétiens remarquables. Ils avaient un fils qui était rebelle. Ils ne voulaient rien savoir de l'Évangile. Alors, ils ont pris une décision, tous les deux. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. Ça a été comme ça pour eux. Ils ont décidé, papa, la maman, tous les dimanches soirs, de jeûner et de prier pour leur garnement de fils. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, des semaines, des mois, je ne sais pas. Mais un jour, alors que ce garçon était sur la piste de danse, dans un dancing quelque part, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il a été convaincu de péché et il s'est converti. Alléluia. Et il est devenu serviteur de Dieu. Vous voyez, ça marche la prière. Ça peut vous arriver. Vous pouvez voir de grandes choses hein, se faire. Vous savez, des fois, on a vécu ça. Des fois, c'était un cheveu hein, de déraper. Béni soit Dieu parce que la prière a été une arme efficace et puissante. Hein? Vous savez, des fois, les gamins, on sent qu'ils nous échappent, on sent qu'ils sont sur la corde raide et que, encore un peu, ils vont basculer du mauvais côté. Et des fois, hein, surtout quand ils grandissent, on ne peut plus rien, on a tout dit, on a tout fait. Peut-être, tu as tout dit, tu as tout fait. Eh bien, il te reste à faire encore une chose. Prie ! Oui, mais j'ai déjà prié, ça n'a pas marché jusqu'à présent. Eh bien, continue de prier. Et le Seigneur est capable d'intervenir. La prière d'intercession, c'est plaider la cause de quelqu'un devant une autre personne. Tenez, nous parlions d'Abraham tout à l'heure, hein, qui a prié par rapport à Sodome. Voilà. Et Lot s'en est tiré, échappé du désastre. Peut-être vous avez votre Lot dans la famille. Peut-être c'est votre fils, votre fille, votre père, votre mère, votre frère, selon la chair, votre sœur, votre mari, votre épouse. Priez pour votre Lot. Alléluia. Et le Seigneur est capable de faire en sorte qu'il échappe du désastre et se convertisse à Christ. Intercédez pour que des âmes soient sauvées. La parole de Dieu nous y engage vivement. Nous connaissons ce texte de la première épître à Timothée. Vous allez voir comme c'est actuel ça. Hein? Première à Timothée, chapitre 2. Voilà, il dit Paul. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes. Vous voyez, il multiplie les termes pour insister, pour enfoncer le clou, comme je disais tout à l'heure. Des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Croyez pas que notre pays a besoin de prières? C'est la pagaille, mes amis. On ne s'en sort pas. De droite, de gauche, du milieu, de devant, de derrière, il n'y a personne qui a la solution. Eh bien, les chrétiens que nous sommes, nous devons prier pour notre nation. Et Dieu peut y faire de grandes choses. Alléluia. Dieu peut arracher ce pays à sa misère, à sa détresse, à tous égards. Et nous voulons prier pour que cela soit, n'est-ce pas, dans ce contexte actuel. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, chrétiens? Qu'est-ce que nous pouvons... Quelle partie pouvons-nous prendre? Eh bien, je ne sais pas, vous avez peut-être vos idées sur les questions sociales, etc. Des idées contradictoires les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas grave. Mais l'essentiel de ce que nous pouvons faire, nous, chrétiens, c'est de prier pour notre nation. C'est de prier pour ceux qui nous gouvernent. C'est écrit pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que Dieu leur donne sagesse et grâce, pour que nous menions une vie paisible et tranquille, afin que des âmes soient sauvées aussi. Dieu veut que les âmes soient sauvées, n'est-ce pas? La prière ne doit pas être seulement l'expression de notre besoin, de notre détresse, mais aussi l'expression de la foi, de la foi. Nous prions, je l'ai dit tout à l'heure, un Père bienveillant, bien disposé. Ô Seigneur, viens en aide et secours-nous dans notre foi. Voilà ce que dira Jésus dans l'évangile de Marc. C'est pourquoi, voilà, ayez foi en Dieu, il dit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Priez avec foi. Je prie et je m'attends à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas là simplement pour déverser mon chagrin. Oui, je le fais. Mais au-delà de mon chagrin, après lui avoir raconté, fait part de ma détresse, j'exprime ma foi, je compte sur toi, je m'attends à toi, je crois que tu vas agir, que tu vas intervenir, que l'œuvre va se faire, que tu vas répondre à ma prière et l'exaucer. Je te fais confiance. Et puis c'est vrai, je vais terminer par la prier dans le nom de Jésus. Hein? Seigneur Jésus, dans les discours qu'il a tenus en présence de ses disciples, juste avant d'être arrêté puis d'être crucifié, dira ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prier dans le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Je ne sais pas quoi dire à la fin de ma prière, alors j'ajoute « au nom de Jésus ». Et comme ça, je finis. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça signifie que nous fondons notre espérance, notre foi, dans la personne de Jésus dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait. Nos prières ne sont recevables par Dieu le Père que sur la base de ce que Jésus a fait. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il a été glorifié. Il est le Fils bien-aimé, il est le souverain sacrificateur qui intercède, qui prie lui-même en notre faveur. Il est notre intermédiaire exclusif auprès de Dieu son Père. Et c'est ainsi que nous pouvons, en son nom, nous approcher de Dieu et recevoir la bénédiction. Quand j'invoque le nom de Jésus, eh bien, je me réclame de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Alors, en conclusion, voyez, nos vies et la vie de l'Église doivent être saturées de prières. Ce n'est pas un acte de bigoterie religieuse, mais c'est un moyen de demeurer près du Seigneur. Trop de chrétiens l'oublient. Trop de chrétiens oublient ce qu'est la prière. Alors leur vie spirituelle est chancelante, vacillante, fragilisée. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Veillez et priez », ajoutant « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Je me souviens de cette vieille femme qui, enfin vieille au moment où elle est décédée, a traversé tout au long de sa vie, et particulièrement de sa vie de croyante, maintes épreuves. Mais voyez-vous, tous les matins, et parfois fort tôt le matin, elle était là dans sa cuisine, assise sur sa chaise, et elle priait, et elle intercédait. Je crois que si elle a pu tenir bon, malgré les nombreuses épreuves qu'elle a traversées dans sa vie de croyante, eh bien, c'est qu'elle a su chercher et trouver le secours de Dieu. On n'en fera pas l'économie, mes amis. Si vous voulez une vie chrétienne en catimini, excusez-moi l'expression, par-dessus la jambe, là, vas-y que je te pousse, ouais, comme ça, là, hein, en dilettante, alors, vous n'avez pas besoin de prier. Mais si vous voulez une vie chrétienne solide, sérieuse, conséquente, puissante, efficace, qui est de l'impact, qui porte du fruit, alors vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de vous tenir devant Dieu. Et moi aussi. Nous avons besoin, terriblement besoin de cela, n'est-ce pas? Vous savez, dans la parole, le promis, je m'arrête, hein, il est dit qu'il faut reprendre les anciens sentiers. Vous avez lu ce texte quelque part? Reprendre les anciens sentiers. Eh bien, je crois qu'il faut reprendre le sentier de la prière. Hein? Voilà, c'était une habitude pour les premiers chrétiens. Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Eh bien, soyons de ceux-là. Des hommes et des femmes de prière. Vous savez, Dieu n'attend pas qu'on soit tonitruant, qu'on soit... D'ailleurs, j'ai remarqué que parfois, des gens fort discrets dans les églises, eh bien, ce sont eux qui assurent sa stabilité, sa solidité, parce que par ailleurs, au-delà de leur discrétion, ce sont des hommes ou des femmes de prière. Soyons de cela. On a besoin, plus que jamais, par les temps qui courent, de chercher le Seigneur. Vous comprenez ça? Les temps sont mauvais. Ouvrez les yeux, les oreilles. Les médias, tout ça, tout ce qu'on nous raconte, tout ce qui se présente, tout ce qui se passe dans notre pays, dans le monde entier, dans cette pauvre humanité, tous les problèmes sociaux, économiques, écologiques, etc., les guerres, les affrontements, notre recours à nous, chrétiens, mais c'est la prière pour notre vie personnelle et pour qu'en tant qu'Église de Christ, nous ayons un impact sur le monde. Alors, l'apôtre Paul dira, priez sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'on va passer 24 heures sur 24 à genoux. Ça veut dire que nous devons constamment avoir cette attitude intérieure, cette élévation de l'âme vers Dieu. Et c'est dans cette mesure-là que Dieu pourra se glorifier au milieu de nous. Que son nom soit béni. Amen.